Le Grand Sourire, une émission présentée par Geoffroy Regoubi.
Bienvenue à tous, vous êtes sur Modulus Radio, la radio qui donne le sourire. Modulus Radio est la toute première radio dédiée à un sujet universel, bien utile et nécessaire, le sourire. Une radio pour les professionnels, mais également pour le grand public. L'idée est simple, donner la parole à ceux et celles qui au quotidien s'occupent de notre sourire afin de mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Et pour cela, nous vous présentons l'émission Le Grand Sourire. Nous sommes ensemble pour 45 minutes pour une émission dédiée au sourire, à ceux qui le dessinent, les professionnels du dentaire, prothésistes dentaires, assistantes et assistants dentaires, chirurgiens dentistes, mais également dédiés à ceux qui portent le sourire, c'est-à-dire chacun de nous, le grand public. Au Grand Sourire, nous échangeons, nous débattons, nous informons dans une ambiance positive. Et oui, nous sommes quand même au Grand Sourire. Je suis accompagné aujourd'hui de Mel, professionnelle du dentaire et chroniqueuse sur l'émission Le Grand Sourire. Mel, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs.
On va commencer par une rubrique, notre première rubrique de cette émission Le Grand Sourire. C'est une rubrique qui s'appelle J'ai une dent contre toi. C'est votre présentation, car nous sommes accompagnés aujourd'hui d'invités extraordinaires, ils sont quatre. Et donc c'est votre présentation par un envieux, envieux de votre réussite, de votre talent, de votre épanouissement professionnel. Alors la galanterie, parce qu'on a une femme autour de la table, heureusement, Sophie Dallem. Alors la galanterie, Sophie, serait qu'on commence par toi, évidemment. Mais la galanterie, je me suis dit que c'était quand même quelque chose qui te faisait systématiquement manger ton plat froid quand tu étais au restaurant. Parce que quand tu vas au restaurant avec des garçons, ils sont servis, tu es servi d'abord, ils sont servis après, et à la fin, ils mangent chaud et toi, froid. Est-ce que la galanterie n'aurait pas été créée par des garçons, par hasard?
Ah bah je les attends pas pour manger, déjà.
Ah, c'est bien, voilà, super. Donc Sophie Dallem, Christophe Quesaillant, Denis Rizzo, Christophe Hu. Au lieu de partir sur la galanterie, de commencer par toi, on va partir en ordre alphabétique, si ça vous va. Donc Christophe Quesaillant, K, Denis Rizzo, R, Christophe Hu, H, Sophie Dallem. Et ben voilà, on va commencer par toi, Sophie. L'ordre alphabétique égalant, c'est formidable. Alors Sophie, j'ai une dent contre toi. J'ai une dent contre toi. Forcément, tu es talentueuse, entrepreneuse, tu donnes des conférences et formations passionnantes. Alors oui, forcément, j'ai une dent contre toi. Sophie, tu es née entre 1901 et 2001. Toi, je suis galant. Tu es associée gérante du laboratoire HD Marly à 9 km de Metz, soit 25 minutes en voiture, enfin par la D5, parce que par les petites routes, on est plutôt à 20 minutes, en passant par le château de Courcelles juste avant le Pizza Hut. Vrai ou pas vrai?
Il n'y a plus de Pizza Hut, je crois.
Ok, il n'y a plus de Pizza Hut. Merci Google. Tu as fait une fac d'histoire géo, études essentielles pour devenir prothésiste dentaire, car... Non, là, je ne vois pas, mais un oncle prothésiste est passé par là et tu deviens prothésiste à ton tour en 2003 pour acheter un labo, ton labo, 10 ans plus tard. Petite, tu voulais être fleuriste. Aujourd'hui, tu es une fleur dans la vie des gens, puisque ton métier est de redonner le sourire. Et accessoirement, tu adores t'occuper de ton jardin. Sur Facebook, Sophie, nous avons 340 amis en commun. Faut que son fasse une soirée un de ces jours. Tu as créé le groupe Facebook Teeth Angels, qui regroupe plus de 800 femmes du dentaire, prothésistes, chirurgiens, assistantes dentaires. Je rappelle qu'il y a plus de 54% de femmes dans le secteur de la prothèse dentaire et qu'on ne les voit pas assez. Tu as 2060 abonnés sur Instagram. On te retrouve à Sophie Dallem, tout simplement. Tu es membre du groupe international de professionnels du dentaire Damage Good. Tu recherches actuellement un ou une prothésiste dentaire expert spécialiste en CAO-CFAO ainsi qu'un prothésiste ou une prothésiste dentaire désireux d'évoluer dans le secteur esthétique et implantologique. On t'écrit où pour ça?
Ben, n'importe où, Instagram, Messenger.
Sophie Dallem sur Google, on tombe dessus.
Pigeon voyageur, je prends tout.
Et tu prends les CV, super. Pour finir, Sophie, ben, important quand même, tu kiffes ton métier.
Oui.
Ouais. Non, vraiment, Sophie, j'ai une dent contre toi. On passe à Denis Rizzo, messieurs, dames. Denis, j'ai une dent contre toi, Denis, car je t'ai vu, en fait, lors d'une table ronde du dentaire, devant une centaine de futurs prothésistes dentaires. Ils n'étaient pas tous forcément très concentrés jusqu'à ce que tu interviennes. Et là, silence, tous ont relevé la tête et ont bu tes paroles. Denis, c'est le genre de personne, quand il prend la parole en public, ce n'est pas pour dire des banalités. Vérité, force, puissance des propos, alors forcément, Denis, j'ai une dent contre toi. Tu es prothésiste depuis 1999, à l'époque, nous parlions en franc. Après avoir obtenu un CAP et un BP au CFA de Marseille, comme ton accent, on le verra, ne le trahit pas du tout. Puis tu enchaînes 8 labos en 10 ans, tu avais la bougeotte, envie de rencontrer des gens, connaître un maximum de choses. En 2011, tu rachètes un labo à Saint-Victoré, 28 km de Marseille, 37 minutes par la 7. suite au départ à la retraite à 47 ans du patron dont tu étais chef de labo depuis 2009. C'est beau, départ à la retraite à 47 ans.
Ouais.
Il faut dire qu'à l'image de tes pensées, que tu partages volontiers et conférences et formations, tu sais où tu vas depuis longtemps. Dès tes études, tu t'étais programmé sur la voie pour devenir ton propre patron et c'est d'ailleurs ce qui t'a séduit dans ce métier. Niveau CAO et CFAO, en 2009, avant que tu ne rachètes le labo, il y avait un pantographe. Alors un pantographe, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est une sorte de grand compas qui permet de faire des répliques. Bon, vous regarderez sur Google. Hein. Et donc, tu as investi dès le rachat du labo en 2011 dans un scanner et une usineuse. De 4 salariés en 2011, puis jusqu'à 6, tu as décidé en janvier 2021 de t'orienter vers une autre prothèse à fond vers le patient pour aller sur de la haute esthétique, du cas par cas, seul. Tu as de fait créé un vrai lien avec le patient, tu connais leurs histoires, tu les rencontres et toi, c'est ça qui te fait kiffer. Et en plus de ça, tu fais de la formation personnalisée, une offre que tu proposes avec 2 participants maximum que tu as appelé Perfect Duo. C'est pas beau ça quand même. Toutes les infos sur www.denirizzo.com. Non, vraiment Denis, tant de talent, j'ai une dent contre toi. Alors, Christophe Hu, qui est à ma droite aujourd'hui. Christophe, j'ai une dent contre toi. Alors, non pas parce que tu as tout juste 50 ans et que tu en parais 10 de moins. Non pas parce qu'on ne sait plus si c'est Christophe Hu qui ressemble à Daniel Craig ou si c'est Daniel Craig qui ressemble à Christophe Hu. Non pas parce que tu maîtrises le principe du lifestyle à merveille. Non pas parce que tu es rédacteur d'une rubrique dans le James Bond magazine. Alors, écoute, en fait, si, pour tout ça, j'ai une dent contre toi. Christophe,
tu peux. Hein.
Christophe, tu deviens prothésiste en 1990, une époque où Yannick Noah était tennisman. Et oui, pour les plus jeunes, Yannick Noah n'a pas toujours été chanteur. Après un CAP et un BP dans une école privée parisienne. Premier labo chez un prothésiste dentaire qui faisait partie du CFCD, Club Français Céramique Dentaire. Pour résumer, les bons du bon de l'époque. Puis, au bout de 8 ans, après avoir fait toutes les étapes du plâtre à métallurgie jusqu'à devenir céramiste, tu montes ton propre labo en Île-de-France, labo que tu diriges toujours aujourd'hui. La formation tout au long de la vie, ça te connaît bien. En 1998, tu passes le certificat pratique d'études supérieures. De 2006 à 2008, tu fais le Las Vegas Institute où tu décroches 3 postgraduettes, un en esthétique, un en céramique et occlusion, un en neuromusculaire. Tu deviens membre Oral Design en 2018, une fondation créée par le grand Willy Geller, qui nous écoute aujourd'hui. On te retrouve sur Instagram avec 1270 abonnés. Tu es un fan absolu du Made in France, que cela soit pour t'habiller, pour ta voiture et bien sûr dans ton travail de prothésiste dentaire. Tu fais des conférences et formations, beaucoup, auprès des prothésistes, mais aussi auprès des dentistes. Rien qu'hier d'ailleurs, tu étais à Lyon, où tu donnais une conférence à l'Alpha Omega, l'association lyonnaise des dentistes, sur le thème des nouvelles technologies au service de l'esthétique émotionnelle. Ça nous intéresse pour notre sujet d'aujourd'hui. Le sport, un peu, allez, beaucoup, accrochez-vous. Tu es ceinture noire instructeur de Krav Maga, ceinture noire en full contact, ceinture noire en karaté contact, instructeur de combat au couteau, boxeur au temple Noble Art. Tu as d'ailleurs fait des combats publics à Londres notamment, tout ça est vrai, messieurs dames. J'ai envie de dire, messieurs dames, Christophe Hu, s'il vous plaît. On peut l'applaudir.
Merci.
Et on termine par notre quatrième invité qu'on est heureux de recevoir, Christophe Quesaillant. Christophe, tu as 41 ans et j'ai une dent contre toi. J'ai une dent contre toi, Christophe, monsieur 10 000 votes, toujours en mouvement, 10 000 projets à la fois, jamais fatigué. Non, vraiment, j'ai une dent contre toi. Christophe, tu es lyonnais, Lyon, une petite ville à une 60aine de kilomètres de Saint-Étienne. Tu es prothésiste dentaire depuis que tu as 18 ans, en 1998, l'année de...
Coupe du Monde.
Oui, alors en effet, j'allais dire l'année du rachat de Rolls par Volkswagen, mais ok, je m'incline, Coupe du Monde. De tes 18 ans à tes 25 ans, tu es passé par une dizaine de labos. Tu as été plâtrier, tu as fait de la métallurgie pendant 3 ans, puis de l'implantologie. À 25 ans, tu te mets à ton compte. Alors comment ça s'est passé? Eh bien, ta future épouse, que tu rencontres 5 ans plus tôt, qui est elle-même prothésiste dentaire, Elisabeth, céramiste, que l'on salue, se fait embaucher dans un labo. Et le patron te dit en rigolant... Écoute, j'embauche Elisabeth et tu rachètes mon labo. Mais voilà, faut pas l'énerver, Christophe Quesaillant. Hop, labo racheté, l'affaire est dans le sac. Votre labo, Elisabeth et toi, aujourd'hui, s'appelle Ardentech. Alors, Ardent, car je te cite, tu es un peu excité. Et ECK pour Tech, pour Elisabeth et Christophe Quesaillant. J'adore. Dès le début, tu t'intéresses au numérique, scanner en 2008, une petite Charlie Robot en 2009, puis le reste a suivi, 3 usines titane, scanner 3D, imprimante de production, etc., etc. En 2020, tu crées un second labo en plein cœur de Lyon sur un concept innovant dédié au numérique et à relations patients. Labo qui esthétiquement n'a rien envié à l'Enterprise de Star Trek, on va en reparler dans l'émission. On peut retrouver Ardentech sur Instagram, Facebook, à tout simplement Ardentech. Aujourd'hui, vous avez, Elisabeth et toi, 14 salariés et 2 enfants, et non pas l'inverse. Non, vraiment, Christophe, tant de succès et d'épanouissement, j'ai une dent contre toi. Merci à vous quatre d'être présents, nous allons faire une belle émission. Pour cette émission, Le Grand Sourire, on va échanger sur un sujet qui concerne la profession de prothésiste dentaire et par capillarité celle de chirurgien dentiste, et de fait qui concerne chacun de nous, le grand public, les patients. L'innovation versus la tradition dans l'univers dentaire. Pour nous présenter le sujet de l'émission, voici la rubrique « On parle de quoi ?» par Mel.
Et aujourd'hui, on va parler de CFAO. CFAO, c'est l'abréviation à la mode de ces 20 dernières années. Et pour rester originaux, nous allons en parler aujourd'hui, puisque le thème de l'émission, c'est innovation versus tradition. Si vous n'êtes pas du domaine dentaire, vous pensez peut-être que l'abréviation CFAO fait référence à la multinationale centrafricaine spécialisée dans les secteurs de distribution automobile.
On pensait exactement à ça, tout à fait.
Eh bien, c'est perdu. Nous allons parler des techniques de conception et fabrication assistées par ordinateur. Pour la petite histoire, ces techniques sont exploitées depuis longtemps dans des secteurs comme l'automobile ou l'aéronautique. Elles font leur apparition dans le secteur dentaire dans les années 80. Et cocorico, on peut être fier de nous puisque c'est un Français qui a adapté ces technologies. Depuis, la CFAO n'a pas cessé de gagner en popularité, jusqu'à devenir incontournable dans nos quotidiens professionnels, à la fois en laboratoire, mais aussi en cabinet dentaire. Ces technologies sont utilisées pour apporter aux patients des prothèses avec des matériaux sans métaux, plus adaptés, plus durables et censés améliorer l'esthétique. Aujourd'hui, la numérisation, au sens large, est bien installée au sein de la dentisterie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'UNPPD, le syndicat majoritaire des prothésistes dentaires. D'après l'enquête de branche de janvier 2022, 92% des laboratoires français sont équipés en CFAO, soit 2950 entreprises. Cela représente 16 points de plus en comparaison des statistiques de 2008, où seulement 16% des laboratoires avaient déclaré être équipés. Les cabinets dentaires ne sont pas en reste. Une enquête de 2017 du média Le Fil Dentaire révèle que 44% des cabinets dentaires sont équipés en CFAO. En effet, 60% de ces praticiens déclarent posséder une caméra intrabuccale. Est-ce qu'ils s'en servent tous ? Là, c'est une autre question. L'avènement de la CFAO a donc bouleversé le monde de la dentisterie. Mais qu'en est-il des techniques traditionnelles ? L'innovation doit-elle se nourrir des méthodes traditionnelles ou va-t-elle les remplacer totalement ? Quel avenir passionnant nous attend ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités du jour.
Merci Mel, voilà le sujet est posé, on va commencer notre premier temps d'échange. Alors ma première question, elle est pour vous quatre, et on va commencer quand même par Sophie parce que bon, hein, on est sympa. Quelle est votre relation à l'innovation dans le dentaire ? Est-ce que vous courez après dans vos laboratoires respectifs ou est-ce que vous l'anticipez, Sophie ?
Moi pour le moment je suis équipée de 2 usineuses et 3 imprimantes, donc forcément je l'utilise au quotidien. Après, sans ça, on ne peut pas l'utiliser sans avoir les connaissances traditionnelles. Donc, je pense que ça fait partie de l'avenir et même du présent déjà. Ça va vite, ça va très, très vite. En fait, on assiste quand même à une révolution numérique dans nos laboratoires depuis ces dernières années. Je pense qu'on est tous d'accord.
Tu la dates à partir de quand, cette révolution numérique ?
Je ne peux pas vraiment le dater. Je pense que dès que j'ai commencé à avoir un scanner au labo... voilà,
ouais, c'est les débuts 2010, quoi, les années 2010.
C'est 2010-2013. Après, ça a beaucoup augmenté, je trouve, avec les caméras chez les praticiens en sortant du confinement. J'ai l'impression qu'ils se sont tous équipés pendant ce temps-là.
Oui, parce que là, on est confronté, pour bien comprendre, au fait que le praticien qui s'équipe de plus en plus, Mel nous l'a dit, le flux devient forcément de plus en plus numérique. Donc, je vais chez mon dentiste, on me fait une empreinte qui est une empreinte optique. Et je l'envoie par flux numérique à mon prothésiste, alors qu'avant c'était l'empreinte classique qu'on a tous connue. À un moment donné, je mords dans une patte et j'envoie cela par un coursier. Sauf que si vous, prothésiste, vous n'êtes pas équipé pour recevoir le flux numérique, bah, le dentiste ne peut pas vous l'envoyer. Donc en fait, ça vous oblige par définition à être équipé.
On est tous équipés, on a toutes les passerelles pour toutes les caméras quasiment, donc ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup d'informations à traiter toute la journée quand on reçoit des empreintes. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'ai vu arriver petit à petit en 2013, on a commencé déjà à avoir un scanner de labo et là ça s'est vraiment accéléré, je trouve que j'ai 97% de numérique au laboratoire.
Ah oui, 97%. Ouais.
Donc on est passé de 20% à peu près en 2016-2017 à 80%.
Ah oui, donc très grosse accélération. Tu le constates, Christophe Cossaillon, Ardentech?
Alors nous on l'a anticipé.
Toi, tu anticipes, toi,
nous,
tu cours pas après.
On a anticipé il y a 15 ans et nous avons poussé nos praticiens.
Il y a 15 ans, donc en 2006-2007.
Et nous, on pousse nos praticiens à s'équiper. C'est le contraire. On les pousse à faire cette technique de travail, en fait, depuis 10 ans.
Donc, toi, c'est l'inverse. Tu dis à tes praticiens, voilà, moi, j'ai de quoi gérer en flux numérique, en numérique, toute ma production, qui nécessite des prothésistes derrière pour le faire, mais tu as tout. Et tu dis aux praticiens, allez-y, on va gagner du temps, en qualité, en toutes ces choses. C'est ça ?
On y a cru il y a 15 ans, on s'est lancé, on a investi, et puis après, c'était... il fallait que nos praticiens s'équipent aussi pour qu'on puisse faire du 100% numérique, en fait, pour avoir un vrai flux numérique.
Et Denis, on parlait de quand tu as racheté le labo, bon, pas Pantographe à l'époque, donc tu rachètes le labo, t'es jeune, mais du coup, on se l'est dit, tu t'es équipé tout de suite, mais ça veut dire que tu rachètes le labo, donc il y a déjà une somme à débourser, et pour racheter, il faut emprunter, parce que c'est quand même des coûts, c'est là où est-ce qu'on court après ou est-ce qu'on anticipe, c'est pas évident. Comment ça se passe? Comment tu fais pour investir à ce moment-là? Je suis prothésiste, jeune prothésiste, je reprends un labo, il faut que j'investisse, comment je fais?
C'est sûr que c'est quelque chose qui s'anticipe. Il y a un montage financier aussi à élaborer. Moi, tu sais, je suis un amoureux du fait main, on en a parlé. J'aime l'artisanat, que ce soit dans le bois, l'ébéniste, dans la cuisine, j'aime le fait main. Et la prothèse, c'est ce que ça m'a apporté aussi. C'est de pouvoir mettre une énergie à la création. C'est ce qui me fait rêver. Et donc, j'étais au Pantographe, comme tu l'as dit. Je n'avais pas de problème avec le CAO, CFAO. Sauf que quand le robot est arrivé dans le métier, je me suis dit, chouette, on va avoir des armatures passives et biocompatibles avec la zircone. Et ça, pour moi, c'était un atout. Et ensuite, on s'est dit, si le robot, il faisait des dents. Et pour moi, pour ma part, je me dis, non, là, on va trop loin. Parce que ça va m'enlever la main sur l'énergie que je veux donner à la création. Donc du coup, j'ai pas eu de problème avec CAO, CFAO, mais il fallait juste que je garde la main, donc la stratification en l'occurrence sur la céramique. Donc pour répondre à ta question, quand j'ai racheté le labo, le patron il m'offrait un suivi de 16 mois. Donc c'était lui qui était au Pantographe, donc je lui versais un salaire. Et après ça a été très simple, lorsqu'il est parti, ce pouvoir financier que j'avais en plus,
tu l'as investi voilà.
Dans le CAO, CFAO. Mais je veux garder la main sur la stratification. Pour toujours mettre une énergie à la création. Et à l'inverse de Sophie, moi, ma production numérique, elle est de zéro.
Ah ouais?
Elle est de zéro.
Alors que tu es équipé, c'est-à-dire que ton utilisation, elle est complètement différente.
En empreinte numérique, oui.
En empreinte numérique.
C'est
ouais.
Ça.
Oui, d'accord.
L'utilisation, elle est différente. Moi, je me sers pour scanner et faire la confection des armatures. Mais après, on me demande aussi, j'ai peut-être pas la même configuration que mes confrères, que Sophie, mais je suis tout seul donc, à bosser. Et souvent, les praticiens, ils me demandent, Denis, qu'est-ce que tu préfères? Numérique ou traditionnel? Moi, c'est traditionnel. Ok, d'accord, on passe au traditionnel. Tout ce qui est en facette, etc., je trouve qu'on est quand même plus précis avec le traditionnel.
Et paradoxalement, quand je t'entends comme ça dans ce que tu exprimes, c'est quelque part hyper novateur le fait de dire, en fait, numérique traditionnel, c'est traditionnel. Et en fait, il y a quelque chose dans le fait, dans ce que tu l'exprimes et dans ta façon d'être, qui est finalement novateur de rester aussi dans la
tradition. Oui, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça, c'est vrai. C'est vrai, mais aujourd'hui... quand tu t'orientes vers l'esthétique, ouais, moi je suis un petit artisan, voilà, c'est comme si tu allais acheter des habits à un centre commercial, pas de problème. Ou alors tu vas chez le couturier, il te fait l'habit sur mesure, là tu vas accepter de la tradition, tu vas accepter que quand on fait du fait main, c'est d'autres protocoles. Bon, peut-être que certains diront tu reviens un peu en arrière, non, je pense que moi je garde ma ligne de conduite en disant je veux ce qui se fait de mieux. Ce qu'il y a de plus précis aujourd'hui, en tout cas pour moi en tant que modèle, c'est l'empreinte traditionnelle. Le jour où on sera précis en numérique et avec le modèle imprimé, pas de problème pour moi.
Ouais, tu définis en fait que tu défends le fait qu'il y a plusieurs voies dans l'évolution. Tu ne considères pas que c'est un retour en arrière, mais c'est une évolution qui est une autre voie de l'évolution ou qui prend en compte les outils numériques, mais d'une autre façon. Toi, Christophe, tu as anticipé ces investissements liés au numérique depuis ces dernières années ou tu as couru après à chaque fois?
Alors, je n'ai pas couru après, mais comme l'a dit Sophie au début, c'est important de bien dissocier les choses. C'est-à-dire que tu peux être équipé dans un laboratoire pour tes étapes au laboratoire. C'est-à-dire que, comme fait Denis, usiner tes armatures, on peut imprimer ses modèles éventuellement, mais tout vient de la demande du chirurgien-dentiste. Il y a eu deux étapes. Il y a peut-être une quinzaine d'années, je me suis équipé du premier scanner, qui était de chez Nobel. Il y a eu le Piccolo, c'était même il y a 20 ans, je crois. Mais ça, c'était pour ta production personnelle. Mais tu recevais toujours des empreintes physiques. Ce qui a vraiment évolué, c'est les empreintes numériques. Donc il faut bien dissocier les choses. Les empreintes numériques, moi, je n'ai pas vraiment anticipé parce que je n'étais pas pressé. Je t'avoue franchement, je n'étais pas pressé. Pourquoi ? Parce que qui dit empreinte numérique, dit modèle imprimé. Et moi, je suis un peu... j'aurais tendance à être un peu du côté de Denis là-dessus. J'ai beaucoup échangé, évidemment, avec des collègues outre-Atlantique ou en France. Dès que tu es spécialisé dans des facettes, facettes phespatiques, quand tu veux vraiment rentrer dans l'état de surface, jusqu'il y a encore 2-3 ans, les imprimantes ne nous donnaient pas satisfaction sur l'état de surface. Tu ne peux pas reproduire un état de surface du dent naturel. Imagine, tu reçois une empreinte d'une centrale et tu imprimes ton modèle. Si tu n'as pas l'état de surface des dents adjacentes, ton travail ne peut pas être reproduit. C'est impossible. Donc, moi qui étais plus sur le côté esthétique des états de surface, de la reproduction vraiment naturelle des dents, je n'avais pas satisfaction quand je voyais les modèles imprimés chez les autres prothésistes. Donc, je n'étais pas vraiment, même pour faire les wax-up, j'étais pas pressé. À partir du moment où maintenant, je pense que ceux qui sont autour de la table peuvent en témoigner, je pense que les imprimantes ont beaucoup évolué.
Exactement.
Et là, maintenant, ça devient très intéressant.
Là, on rentre dans une nouvelle ère, quelque part ?
Totalement. Ouais. Et ça, comme le dit Sophie, peut-être depuis le confinement, j'ai l'impression que tous les fabricants se sont vraiment penchés sur l'amélioration. Et plus ça va aller, plus ça va être extraordinaire. Donc, moi, je crois qu'on en a parlé, je crois qu'on a échangé tous les deux il y a quelques jours. On vit des moments très intéressants et un peu euphoriques parce que il y a un renouveau dans notre profession. Tout en gardant notre métier vraiment artisanal, parce que ça, il faut vraiment le revendiquer, on peut tout faire en interne dans un laboratoire maintenant. Et je pense que la qualité, on peut l'avoir maintenant avec le flux numérique à 100%. Et moi, de mon côté, par rapport à tous ceux qui sont autour de la table, Sophie qui est à 97%, certainement aussi Christophe.
Non, peut-être pas autant, on est à 70% d'empreintes numériques.
D'empreintes numériques, ok.
Mais nous, il y a un autre avantage aussi, la CFAO, c'est pas que les facettes. C'est aussi une organisation de travail.
Bien sûr.
Alors, très intéressant, on va y revenir, parce que l'évolution, on parle de l'évolution des outils numériques.
Les tâches ingrates.
L'évolution de la manière de fonctionner dans votre laboratoire, en fait. C'est aussi de l'innovation, ça.
Exactement. Et toutes ces tâches ingrates qu'on ne fait plus, mise en revêtement, le plâtre.
Eh bien, je propose, Christophe, parce que justement, on allait passer sur ton laboratoire qui est dans Lyon 6, un laboratoire que tu as créé avec Elisabeth, très novateur et là aussi dans l'innovation. Et on en reparle juste après une petite page de publicité pour un de nos partenaires, le laboratoire GSK qui nous accompagne. Et on leur donne la parole.
Vos dents sont sensibles ? Découvrez la nouvelle formule de dentifrice Sensodyne Répare et Protège. Grâce à sa technologie avancée et son action réparatrice en profondeur, cliniquement prouvée pour soulager durablement l'hypersensibilité dentaire. Découvrez vite la gamme Sensodyne des laboratoires GSK. Sensodyne, première marque contre la sensibilité en France. Dispositif médical. Pour plus d'informations, consultez l'étiquetage. Ne pas utiliser chez l'enfant. Demandez conseil à votre dentiste ou votre pharmacien.
Nous voilà de retour avec nos quatre invités, Sophie, Christophe et Denis, et Mel avec nous aujourd'hui. On va faire une petite rubrique avant de reprendre nos échanges qui s'appelle le sourire en coin. Alors cette rubrique, c'est pas compliqué, hein, je vais venir avec chacun d'entre vous et je vais vous poser une petite question, vous allez répondre sans réfléchir, d'accord ? Sans réfléchir, il faut vraiment poser le cerveau là et voilà, donc on réfléchit pas. Sophie, on va commencer par toi.
Toujours.
T'es prête ?
Comme d'habitude.
Sophie, attention, 3, 2, 1, foot ou rugby ?
Foot.
Bretagne ou Côte d'Azur ?
Côte d'Azur.
Madeleine ou Petit Lu ?
Madeleine, oh ouais, Madeleine.
ADF ou Dental Forum ?
Dental Forum.
Tout céramique ou alliage ?
Tout céramique.
Spatule ou pinceau ?
Spatule.
Bien, tu vois, formidable, facile. On a appris plein de choses sur toi. Christophe, t'es prêt ?
Vas-y.
Christophe, mer ou montagne ?
Mer.
Facebook ou Instagram ?
Instagram.
Photo en réflexe ou en smartphone ?
En smartphone.
Blouse ou pas blouse ?
Blouse, mais sur mesure.
À l'italienne.
La classe.
On continue. Salon de thé ou pub ?
Salon de thé l'après-midi, pub le soir.
Stratification ou full anatomique ?
stratification.
Merci Christophe. Denis, tu es prêt?
Oui, c'est parti.
Chien ou chat?
Chien.
Été ou hiver?
Été.
PSG ou OM?
je réponds même pas.
Lame de bistouri ou pointe de cutie?
Lame de bistouri.
Adjointe ou conjointe?
Conjointe.
Innovation ou tradition?
Tradition.
Christophe, que saillant, es-tu prêt? Ville ou campagne?
Ville.
Bière ou champagne?
Champagne.
Train ou avion?
Avion.
Made in France ou Made in China?
Made in France.
Empreinte tradie ou numérique?
Numérique.
Star Trek ou Star Wars?
Les deux.
Merci de vous être prêté au jeu. Alors, avant cette petite pub de notre partenaire GSK, on parlait de ton laboratoire, Christophe. Christophe, ton laboratoire avec Elisabeth, ton épouse. Vous avez un laboratoire à Brignais. Vous avez combien de salariés? 14, on a dit à peu près.
On est 14.
Voilà, 14. Et tu as créé en 2020 un deuxième laboratoire. Je voudrais que tu nous en parles parce que à Lyon 6, on est sur l'innovation, mais alors l'innovation dans le concept. Il y a l'outil, on voit l'innovation. On en a parlé juste avant, il y a la manière d'être. Mais le concept, parle-nous de ce laboratoire que tu as créé.
Alors, c'est un laboratoire qui est full numérique et qui s'appuie sur le laboratoire de Brignais, la maison mère. Donc, on a besoin de l'équipe des 13 personnes qui sont sur Brignais pour pouvoir fabriquer la dent à la journée. On reçoit le patient pour des prises de teinte et le patient repart en fait avec sa dent au bout d'une heure. Il est sur le fauteuil, prise d'empreinte chez le praticien. La dent est numérisée, designée à Brignais, fabriquée à Lyon. Le patient vient, dernier coup de maquillage, et il repart chez le praticien au bout de 2 heures. Et ça s'appelle un service prime.
Service prime. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on arrive dans ton labo quand même. Donc, ce que je disais, c'est l'enterprise, c'est incroyable. On a les claviers d'ordinateur qui sont sculptés sur la table, les écrans d'ordinateur qui sont incurvés. T'as un hologramme qui arrive, t'as l'impression qu'il va te sauter dessus avec un lion. Parce qu'Ardentec, c'est le lion, le symbole.
C'est le lion, mais le lion de la ville de Lyon aussi.
Ouais, bien, tu fais pas les choses à moitié, évidemment. Mais est-ce que la ville de Lyon dit le lion, c'est le lion d'Ardentec?
C'est le lion de...
Tu y es pas encore?
Non.
Et quand le patient arrive, il s'installe dans une petite alcôve.
Une petite bulle.
Et là, on lui sert une petite coupe de champagne. Et il attend tranquillement que sa dent arrive. Donc, tu réinventes la relation, en fait, prothésie dentaire. Ça, c'est la vision du prothésie dentaire qu'on peut en avoir, hein, avec quelque chose de très moderne, très sexy, quelque part. C'est formidable.
Voilà, exactement.
Et alors, on parlait justement de tout ce qui était innovation avant la petite pause. Mais cette innovation, elle a un coût. Elle a un coût à la fois, on l'a dit, quand on achète les machines, mais elle a un coût aussi de production, j'imagine, Christophe.
Oui, les matières premières sont plus chères que celles qu'on avait l'habitude d'acheter. Aussi bien les résines que les disques à usiner. Les deux plus gros exemples, et après, ce serait bien d'en débattre avec les collègues, les deux plus gros exemples pour le coût qui vraiment modifie considérablement, c'est les modèles imprimés par rapport à un modèle en plâtre, car les prix sont mirobolants au niveau du liquide pour imprimer, et aussi au niveau des unitaires, par exemple des lingotins à usiner en impresse, en disilicate de lithium, par rapport à la pressée. Par exemple, pour donner un exemple, avec un lingotin de pressée, tu peux faire 4 ou 5 inlays, donc 4 ou 5, et le lingotin de pressé va te revenir à
20 euros.
Ouais, 20 euros, donc grosso modo, là-dedans, elle te revient à 4-5 euros. Alors qu'un lingotin usiné impress, il est à 18 euros.
Oui, 18-20 euros.
18-20
euros. Et t'en fais qu'une.
L'élément.
Voilà.
Et t'en fais qu'une. Donc, lorsque tu fais clairement un cas de 10 facettes en IMAX pressé, tu fais 10 fois 4 euros. Okay. Alors on parle juste de la production, on ne parle pas de main d'œuvre, bien sûr. Tu es à 40 euros sur un modèle en plâtre qui t'a coûté grosso modo 1,50 euros, même pas. Alors que si tu fais tout en numérique, tu as le modèle imprimé, lui, qui te revient à combien à peu près
12, 13 euros, 12, 14 13 euros.
Le modèle imprimé. Et après, tu as 10 fois 18 euros, donc ça fait 180. Donc on est passé à 200 euros. Sur le même cas. Ça, c'est le premier problème. Le premier problème, c'est le coût des matières premières.
D'accord avec ça, Christophe, Sophie?
Oui. C'est sur la matière première, mais après, on peut se rattraper sur la fabrication, c'est-à-dire qu'on gagne du temps.
Donc, c'est-à-dire que ça coûte plus cher, mais tu produis plus vite, donc tu produis plus.
Tout à fait.
Alors, gagner du temps, oui, mais quand tu as une imprimante, dans ce cas-là, il faut avoir 3 ou 4 imprimantes pour gagner du temps. C'est, donc c'est encore un coût plus élevé.
C'est ton cas, Christophe, toi.
Oui, on a plusieurs imprimantes, mais un modèle, on l'a une heure après.
Je pense qu'après, on arrive dans un engrenage.
T'es un engrenage, voilà.
Alors, qu'est-ce que t'entends, Sophie? Qu'est-ce que t'entends par engrenage? C'est quoi? C'est que ça t'oblige à acheter, à te...
C'est ça. C'est qu'une fois qu'on a la main prise dans le numérique, en fait, on est vite happé par le toujours plus vite. En fait, on est obligé d'avoir une production quand même plus importante. L'industrialisation arrive dans le métier. Donc, c'est un indéniable.
On arrive à garder quand même le côté, justement, qui fait la beauté de votre métier, le côté artistique, dont parle beaucoup, notamment Denis.
Mais oui, mais on l'a toujours, le côté artistique.
Alors comment, vas-y, comment?
Ben, comment, c'est après la stratification. Une facette, voilà, on peut très bien rajouter de la céramique. C'est, on ne fait pas tout que par ordinateur. On prépare une chape ou on prépare une facette numériquement disilicate. Et derrière, on a le travail artisanal de nos céramistes.
Mais ça, tu ne peux pas le faire avec ton service prime, par exemple, que tu...
Là, non, voilà, mais on ne va pas faire des facettes en service prime.
Ah oui, là, c'est
on
sûr.
Des inlays, des...
Voilà, tout à fait.
Full numérique, quoi. Full zirco.
Voilà, des molaires du fond, des inlays, mais des facettes, non, on va prendre le temps. Tu ne peux pas te permettre de...
Mais du coup, ça légitime beaucoup ce que vous dites. Alors, ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose qui, au final, est une problématique que tu définis, Christophe, directement, mais qui, dans un système que l'on met en place... se légitime, et à partir du moment qu'on l'intègre, comme tu dis Sophie, comme tu dis Christophe, que saillant, ça se légitime, et à la fin on y gagne. Et en même temps, ça légitime aussi la voie, Denis, que toi tu prônes, qui est de dire, bah moi, mon innovation à moi, c'est justement de faire autrement.
Moi j'ai un avis extérieur à tout ça, parce que je ne suis pas confronté à ce genre de problématique. J'aime le plâtre en plus de ça, tu vois. J'aime mélanger le plâtre avec de l'eau, parce que je le fais à la main, je spatule, j'aime investir les empreintes avec tout ça. Bon, c'est de la tradition, mais si demain j'avais des modèles précis, pour moi, ce n'est pas un problème. Même en numérique, ça, c'est pas le problème.
Ça pas stratifier sur des modèles en résine, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
C'est compliqué.
Parce que ça n'absorbe pas l'humidité quand on stratifie. Donc, franchement, en fait, on pense qu'on va aller dans du plus simple. Mais plus compliqué. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que... Quel que soit l'art, que ce soit l'art dentaire ou un autre, on ne peut pas faire vite, bien et pas cher.
Tout à fait.
Mais ça ne marche pas ensemble.
Pour rejoindre ce qu'il a dit Christophe tout à l'heure, au niveau du coût, on est quand même plus élevé qu'en traditionnel. Et là, je vous pose la question à vous, parce que moi, je n'ai pas de recul sur ça. Lorsque je sculpte les inéonnés IMAX, par exemple, en cire et que je les presse, le résultat, il est juste fabuleux. Je vous pose la question... En numérique, est-ce que l'ajustage, il est moindre ou...
C'est fabuleux aussi.
Nous, c'est fabuleux aussi, oui. Ouais.
Bah ça, c'est opérateur dépendant, on va dire. Si l'empreinte de la caméra est bonne, si le praticien a mal scanné en bouche, nous, on n'est pas responsable de ça. On ne peut pas le vérifier non plus.
Et si c'est fait en bonne et due forme, a priori, quand tu poses l'inlay, tu as autant de précision que si tu le faisais à la main, on va dire.
Oui, en bouche, mais quand il y a des distorsions au niveau de la caméra, nous, on ne peut pas le contrôler puisqu'on voit uniquement ce qu'on a sur la caméra. Du coup, ça va très bien sur le modèle, mais ça ne va pas
Va pas, exactement.
Et ça, en fait, c'est opérateur dépendant. Exactement comme les empreintes physiques.
Exactement.
Et ajuster un inlay sur ton modèle imprimé, qu'est-ce que ça dit?
Alors nous, on fait 100 modèles. Un unlay, c'est 100 modèles.
Donc, tu ne peux pas trop vérifier finalement l'ajustage.
Non. La couronne, oui. Mais si, on l'a fait pendant des années. Il y a 10 ans en arrière, on avait préparé nos modèles. Mais maintenant, on n'a plus besoin de modèles.
Tu as tes paramètres qui sont réglés.
Voilà.
Mais Denis, même si ton unlay va sur ton modèle imprimé, c'est pas dit que le modèle imprimé soit juste. Si déjà l'empreinte est fausse. Donc, en fait, tu peux vérifier.
Le contrôle qualité, c'est un peu plus fastidieux.
Tu peux pas vérifier.
Le contrôle qualité, non, c'est que... Le contrôle qualité de ce que Denis dit, en fait, c'est le modèle, on va l'imprimer, l'onlay, on va le fabriquer en numérique. Là, on plaque parfaitement, notre onlay, il va plaquer. Par contre, ce que tu es en train de dire, c'est la distorsion du praticien qui a pris l'empreinte numérique. Donc, il peut plaquer sur ton modèle, mais pas en bouche.
Donc, tu as beau vérifier et faire un contrôle qualité, tu ne peux pas vérifier jusqu'au bout de la chaîne, en fait.
Et moi, je pense qu'on est beaucoup plus précis en numérique qu'en plâtre. Une empreinte, c'est quand même, si on regarde notre métier, c'est de la silicone, donc de l'expansion, du plâtre, de l'expansion, le métal, le revêtement, de l'expansion. Et au final, oh, ben, un coup de bol, ça rentre. C'est un peu ça, notre métier. Là, le numérique, on travaille au micron. On est au micron.
Alors, je suis d'accord.
L'avancée, elle est faite sur le coup.
On est même trop précis. On est même beaucoup plus précis qu'avant. Trop précis.
En CAO, on est très précis avec l'empreinte qu'on est en train de parler. On est très précis avec l'empreinte numérique. Mais après, la matérialisation avec le modèle 3D, c'est là où on a peut-être un souci.
Tout dépend des machines, encore une fois.
Oui.
Tout dépend des machines.
Mais l'état de surface, comme le disait Christophe tout à l'heure, c'est quand même meilleur sur du plâtre. Je pense qu'on est plus précis.
Pour faire de la micro-géographie de surface,
ah oui,
par exemple.
Obligatoire, tu peux pas. Photo. Tu vois les strates sur les modèles.
Imprimés. Échange tout à fait passionnant entre professionnels, avec plusieurs visions, mais qui se regroupent beaucoup. On va faire une deuxième petite pause avec notre second partenaire, l'entreprise GC, entreprise fort connue de nos professionnels du dentaire. Et on se retrouve juste après.
GC, un acteur majeur du secteur dentaire depuis plus de 100 ans. Entre modernité et tradition. Notre ligne directrice ? Améliorer la santé bucco-dentaire dans le monde. Nous développons les meilleures solutions de traitement dentaire en fabriquant des matériaux ultra-performants qui simplifient la vie du dentiste et du prothésiste dentaire. L'évolution des disilicates de lithium permet d'obtenir des résultats naturels sans cuisson avec des possibilités de maquillage et de micro-stratification ultra-performantes pour un rendu parfaitement esthétique et illimité. Le patient retrouve un sourire naturel et éclatant en un temps réduit. Partenaire de l'Académie d'art dentaire depuis plus de 10 ans, nous sommes désormais présents sur toutes les spécialités dentaires. De la restauration directe à la restauration prothétique, en passant par l'implantologie et l'orthodontie avec une forte orientation numérique et digitale. Découvrez nos innovations issues de nos toutes dernières technologies en nous retrouvant au Dental Forum du 7 au 9 avril 2022 au Parc Floral de Paris. Avec GC, souriez au monde.
Et nous voilà de retour. Et pour une rubrique, la rubrique Souris-moi par Mel. La parole est à toi, Mel.
Merci. Alors, est-ce que vous connaissez la nouvelle tendance en vogue sur TikTok et les autres réseaux sociaux ?
Absolument pas.
C'est la tendance Regarde mes facettes. De plus en plus d'influenceurs se filment au fauteuil pour partager leur expérience de restauration esthétique. Le hic, c'est que ces personnes, souvent très jeunes, ne se font pas poser des facettes, mais des couronnes, ce qui a alarmé la communauté mondiale des professionnels du dentaire. En tant que dentiste, prothésiste ou assistant, cela vous semble peut-être aberrant, mais les patients ne font pas toujours la différence entre les prothèses existantes. Influencés par des années de publicité vantant un sourire parfait, plus que blanc et aligné, les jeunes patients sont désormais la proie de professionnels malhonnêtes. La très grande majorité de ces soins sont réalisés en Turquie ou dans d'autres pays connus pour du tourisme dentaire. Les patients ne prennent pas conscience qu'au-delà de l'aspect esthétique, bien souvent trop superficiel à mon goût, ils portent atteinte à leur santé en détruisant leurs dents. Et je ne vous parle même pas du coût financier. Au-delà de l'investissement que représente la première pose, il ne faut pas oublier que ces prothèses seront à renouveler à vie en moyenne tous les 15 ans. Les conséquences de cette désinformation sont dramatiques. Je souhaite donc adresser un message à tous nos auditeurs non professionnels du dentaire. Faites attention à vous, prenez soin de votre santé, consultez des professionnels français qui, avec éthique, sauront vous orienter vers les meilleures solutions pour embellir votre sourire sans détériorer votre santé.
Merci Mel, des professionnels du dentaire français, on en a quatre autour de cette table. Passionnant. Je vais vous poser une question, on va faire un peu de prospective avec vous quatre. On va parler un petit peu du labo dans 10 ans et du labo dans 50 ans. Alors dans 10 ans, bah, c'est celui qu'on voit arriver, on a une idée, et dans 50 ans, on ne sait absolument pas. On ne peut qu'imaginer et laisser libre courir notre imagination. Le labo dans 10 ans, Christophe, tu vois quoi toi, Christophe Cossaillon, Lyon ?
Le labo dans 10 ans, en rigolant, c'est le métaverse.
Ah oui, le métaverse. C'est-à-dire que tu vas acheter des dents, mais pour ton avatar,
voilà.
En fait.
Et nous, on a tous des dents.
Tu as payé ça une fortune, forcément. Ouais. Comme, parce qu'ils sont en train de le faire avec des habits. Tu achètes des habits sur métaverse que tu ne mettras jamais, parce que c'est ton avatar qui le met. Oui, ça, je ne sais pas si c'est intéressant. C'est passionnant, mais je ne sais pas si c'est intéressant. Mais, ah ouais, d'accord. Donc, dans 10 ans, déjà, toi.
Je ne sais pas. Ça évolue trop vite.
Et toi, Denis, alors, justement, le labo dans 10 ans, avec ta vision à toi, c'est quoi ?
Ça va être un grand écart. Un grand écart entre les gros laboratoires et le petit artisan, là, comme moi, qui veut faire du sur-mesure, qui veut faire vivre une aventure aux patients. Voilà. Je pense que le laboratoire moyen, lui, va plus exister.
Il faut rappeler faut bien comprendre que toi, tu as un labo, t'as un labo ultra moderne. C'est-à-dire que ton labo, c'est un loft qui est décoré comme si on était chez soi, avec un magnifique fauteuil dentaire, etc., un escalier en acier. Donc, tu es tout seul, mais tu n'es pas tout seul dans ton garage à l'ancienne.
Tu es
dans une vision innovante.
C'est un concept.
Mais c'est un concept, c'est une autre manière. Et je trouve ça formidable parce que ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs voies. Et vraiment, c'est ce qu'on disait au début. C'est pas parce qu'à un moment donné, je ne fais pas comme la vague qui amène aujourd'hui à une innovation numérique des outils qu'on n'est pas dans l'innovation. Et donc, toi, tu es dans l'innovation. Donc, justement, pour toi, c'est le grand écart. Il va y avoir les artisans, comme tu te considères, qui va rester dans la relation avec le patient, et puis des laboratoires qui vont grossir, qui eux vont être
être obligés à parler, Sophie, d'engrenage du numérique. Oui, forcément, ça va être. Mais je voudrais moi dire aussi ce qu'a dit Mel tout à l'heure sur les dents. vite fait, tout ça, tout white. On faisait les dents avant. On payait cher pour pas que ça se voie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on les paye cher pour que ça se voie. Oh, c'est la ça. Belle prothèse que t'as. Oh, elle est trop belle ta prothèse dentaire.
C'est exactement
et,
ça.
Et c'est dingue, hein, cette dynamique-là. Mais
le A1 est trop jaune. Maintenant, le A1 est trop jaune.
Oui, c'est ça. Nous, oui, est-ce que plus des latins
Est-ce que c'est une véritable tendance ou c'est plus un effet de mode?
Non, c'est une tendance. Il faut voir aussi.
C'est nouvelle génération.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, on est en train de parler peut-être de réseaux sociaux par rapport à la France ou à l'Europe. En France ou en Europe, on a toujours eu 10 ans d'écart de retard, entre
avec
guillemets, par rapport à l'outre-Atlantique. Aux États-Unis, moi, quand je faisais mes études en 2005-2006, tu vas à Las Vegas, tout le monde a des dents blanches.
C'est ça.
Donc, finalement, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est juste qu'on est rattrapé par les tendances. Et ce n'est pas que le dentaire qui est dans ce cas-là, c'est vestimentairement parlant. On a toujours eu un peu de retard par rapport à ça, parce qu'on est un peu ancestral, chauvin, on n'aime pas trop nous bousculer. Et maintenant, on commence à s'adapter à ça. Moi, personnellement, mes clients qui sont parisiens reçoivent de la clientèle étrangère, souvent. Et la clientèle étrangère, tu leur fais du blanc. Ils veulent du blanc. Et donc là, il ne faut pas confondre entre faire des dents blanches, ce qui n'est pas péjoratif, hein, parce qu'on peut très bien avoir envie d'avoir des dents blanches et on peut l'entendre.
Oui, tu peux faire du bleach et stratifier, donner de la
vie.
Voilà. Moi, je fais beaucoup de bleach.
Mais
pas des touches de piano, placard, stéréotypé à mort.
Mais oui, parce que ça, c'est
soit monsieur et madame, c'est les mêmes dents.
C'est l'uniformisation, parce que il y a dans un article de Technologie Dentaire de janvier, dans lequel on retrouve d'ailleurs un excellent article de Denis Rizzo. Je vous invite à le lire. Il y a Richard Fouquier qui est prothésiste dentaire et qui fait un article très intéressant, et il met en avant sur l'innovation que l'innovation ne se réfère que le cosmétique artificiel est parfait, alors que le regard humain est nécessaire pour avoir accès à l'esthétique naturelle imparfaite. Et en fait, notre recherche aujourd'hui en tant que culture française, c'est la non-uniformisation, c'est aller chercher justement cette esthétique naturelle imparfaite pour que ça ne se voit pas, même si j'entends ce que tu dis, Denis, qu'aujourd'hui, il y a peut-être une tendance qui est « regarde ma prothèse », mais j'espère qu'on sera encore dans plus je suis fier de ma prothèse, moins j'ai envie de la montrer, puisque j'ai envie de montrer à tout le monde que j'ai des dents naturelles, quoi.
Et tu sais comment ça s'appelle, ça?
Non.
L'harmonie.
Ah, c'est beau, c'est bah, voilà, magnifique.
Oui, oui, c'est l'harmonie d'un sourire.
La dissymétrie harmonique.
C'est ça.
Dissymétrie harmonique.
Parfaitement imparfaite.
On parle du patient, là on a parlé du labo. Alors oui, le labo, dans 10 ans, le labo dans 50 ans, si on se laisse complètement rêver, le labo dans 50 ans. Moi, quand je vois ton labo, Christophe Quesaillant, à Lyon, ton labo Lyon 6, j'ai l'impression d'être dans le labo dans 50 ans, quand on arrive et qu'on voit cette espèce de comment ça s'appelle, tu sais, avec le lion là qui...
Les néons, l'hologramme. Nébula, on a une voix de robot qui nous parle pour nous dire...
Ah non, mais c'est extraordinaire. Il faut aller voir Christophe Quesaillant, Elisabeth Quesaillant dans le 6e à Lyon. Le labo dans 50 ans, Sophie, si on délire complètement, c'est quoi?
Je sais pas, un labo sur Mars.
Ah, un labo sur Mars, c'est bien ça. Tu connais Elon Musk peut-être?
Pas
non
du tout.
Non, t'as des trucs. C'est ça, hein, tu connais, tu nous le dis
dans
pas.
Dans 50 ans, je serai plus là.
Voilà. J'espère que si.
Après moi.
Alors, Denis en a parlé. Le labo, Christophe, dans 50 ans?
Je pense que... Bon, c'est quand même compliqué de le voir, mais je pense que le prothésiste pourra être sur place directement dans un cabinet dentaire par son hologramme, justement.
Ah ouais, le rapprochement, en fait, l'innovation au service du rapprochement entre le binôme prothésiste chirurgien dentiste.
Ouais, je pense que c'est ça, enfin, j'espère que la tendance viendra à ça. C'est-à-dire que ce qu'on appelle des 3P, le patient, le praticien et le prothésiste, il y aura un regroupement aussi bien par les données numériques que par les hologrammes. Chose comme ça.
Mais il va falloir légiférer, parce que le prothésiste dentaire aujourd'hui n'a pas le droit de mettre la main en bouche du patient. Mais est-ce que l'hologramme aura le droit de mettre la main en bouche du patient? Non, mais tu vois, c'est important.
En tout cas, la relation avec le patient sera plus proche.
Ouais.
Grâce,
okay.
à ça, grâce à ça.
Et alors justement, le patient de 2030, parce qu'aujourd'hui, le patient, il n'est pas tellement informé, il va chez le dentiste, il y a la stature du docteur qui fait un peu peur, donc j'ose pas trop poser de questions. Mais de plus en plus, il y a une demande, on a vu dans le mouvement Je choisis de sourire Made in France qui a fait un sondage et qui a vu qu'il y avait une très grande majorité des Français qui souhaitaient privilégier le Made in France pour ce qui concerne ce qu'on lui met dans la bouche quand même, en termes de dents. Donc le patient a besoin peut-être une envie latente d'être informé. Le patient de 2030, il sera super informé sur... il sera plus en relation avec le dentiste? il demandera à voir son prothésiste.
Ce sera plus transparent, je pense.
Ouais, plus transparent.
Oui, parce que de toute façon, avec les réseaux maintenant, tu ne peux plus cacher ce que tu fais. C'est impossible. Donc, aussi bien pour l'information. Les patients, quand ils viennent chez un dentiste, ils savent ce qu'ils veulent, normalement. Maintenant, la plupart du temps. Avant, tu allais chez un praticien, tu fermais les yeux, on dit, vous avez une couronne à faire. Ah bon, très bien, je savais pas. Maintenant, les gens, ils viennent, ils savent ce qu'ils veulent.
Ah oui. Ils sont renseignés avant, c'est ça.
Ils veulent de l'IMAX. Enfin, moi, lorsque je prends des teintes, les patients viennent dans mon laboratoire, ils me posent des questions. On a presque l'impression d'avoir affaire à un professionnel.
Vous le constatez aussi.
C'est d'IMAX, c'est de la fespatique, ouais. Vous allez me faire.
Denis, toi qui reçois beaucoup les patients.
Moi, je reçois les patients à 100%, sur tous les cas que je fais.
Et tu constates ce que dit Christophe?
Oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui sont démocratisées aussi. Aujourd'hui, la nana, elle se refait la poitrine, elle se fait ci, elle se fait là, ou le garçon, peu importe. Et elle va
mais
dire...
toi, tu fais que les dents, on est d'accord.
Oui, moi, je fais que les dents. Okay. Mais elle va dire, mon chirurgien, c'est un tel, tu vois, ça s'est démocratisé. Aujourd'hui...
C'est la première étape, les dents.
On se refait le sourire, mon prothésiste, c'est un tel. Voilà. Il y a beaucoup de sourires quand on a amené un deuxième. J'ai constaté ça. Je viens de la part d'une amie, elle m'a montré c'est vous qui avez fait, etc. Okay. Donc ça s'est émancipé, ça s'est démocratisé, puis ça c'est une bonne chose pour nous.
Ça et les réseaux.
Oui,
les réseaux,
c'est incroyable. Moi je sais que j'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui viennent des réseaux.
Ah, parce qu'ils t'ont vu sur Instagram.
Mais les patients.
Faut le suivre ton Instagram, il est magnifique Sophie.
Les patients qui viennent, qui voient mon Instagram, qui vont chez leur praticien et le praticien m'appelle, oui, maman, j'ai une patiente qui est venue, elle veut que ce soit vous.
Et ben ça s'appelle le cinquième pouvoir, le pouvoir de l'opinion. Mes amis, on va arrêter sur ça. Pour conclure nos échanges et en résumé, ce que j'ai noté, c'est qu'on peut dire que sans tradition, dans sa définition la plus large, comme on a parlé notamment Denis, il n'y a pas d'innovation. L'innovation se nourrit de la tradition et la tradition se légitime parce que l'innovation existe. Sinon, la tradition devient caduque. En fait, la tradition devient un élément qui évolue comme le fait l'innovation. L'exemple de Denis en est flagrant. La tradition ne doit pas être perçue comme une addition de techniques immuables, mais bel et bien comme des techniques qui évoluent. Je prends l'exemple de la fronde à main. Aujourd'hui, la fronde à main, on ne va pas dire que c'est de la tradition, c'est totalement caduque. En fait, la tradition de 2022 n'est pas la même que celle de 1982, tout comme l'innovation de 1982 n'est pas la même que celle de 2022. En fait, l'innovation d'aujourd'hui est la tradition de demain. On est d'accord là-dessus ?
Waouh, super.
Ah, bon, ça vous va ? Bon, en tout cas, merci à vous quatre, merci à nos invités. Ils promettaient d'être bons, ils ont été mieux que ça. On peut les applaudir bien fort, tous les quatre. Un grand merci à Amel de nous avoir accompagné cette première émission. Merci à notre directrice des programmes Laura ainsi qu'à l'équipe en charge de la réalisation, notre producteur exécutif Julien et notre ingé son à la captation Lucas. Merci à nos partenaires, le laboratoire pharmaceutique GSK, l'entreprise GC, l'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel et à tous ses collaborateurs qui font un travail formidable pour former la future génération de prothésistes dentaires et d'assistantes dentaires. Je vous invite à écouter souvent, tout le temps même, Modulus Radio, la radio qui donne le sourire via l'appli sur iPhone et Android à télécharger gratuitement ou sur modulus.fr. Vous y retrouverez de la bonne musique, les infos et notamment aussi des épisodes d'entretien avec un dentiste produit par le docteur Florence Etcheverry qui met en avant des personnalités du monde du dentaire au parcours atypique et passionnant. Et ça, c'est toutes les semaines le jeudi à 19h. Quant au grand sourire, retrouvez le replay tous les lundis à 18h, les mercredis à 8h du matin et les samedis à 10h du matin. Nous, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du Grand Sourire le lundi 11 avril à 18h pour une émission dédiée au mouvement Je choisis le sourire Made in France qui se déroulera en public lors du Dental Forum du 7 au 9 avril au Parc Floral à Paris. Et à cette occasion, nous recevrons des invités exceptionnels une nouvelle fois. Mel, dis-nous tout.
Avec nous pour l'événement, Laurent Minereau, président de l'UNPPD, le docteur Julien Lopi, secrétaire général de l'ADF, l'Association des dentistes de France, Arthur Zaracolu, patron du laboratoire AZM et délégué général du mouvement Je choisis le sourire Made in France.
Merci Mel, et d'ici là, gardez le sourire.